je suis.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Midi 59, 418-971-1011. Merci beaucoup à Tommy Fontaine de la promo, de la production qui nous a fait tous ces thèmes pour l'Halloween. Les Halloweeneux, y en a-tu dans vos entreprises? Vous êtes déguisés comment, les amis? Nous autres, on a Gravel qui s'est déguisé aujourd'hui.
En mort.
Ouais,
assuré pour Pascal.
Ouais, exact. Un clown mort, je pense.
C'est un des tueurs, ou je sais pas quoi, un des personnages d'horreur de Rob Zombie dans ses films.
Ouais, dans un de ses films, dans un de ses vidéoclips. Pascal, on a une promo pour le salon de la motoneige et du quad 2024 qui va réunir les plus grands manufacturiers et les intervenants pour un rendez-vous de 3 jours.
Ouais, puis salon de la motoneige 2024. Si ça vous tente, on a des paires de billets à vous donner. Donc, c'est du 8 au 10 novembre, c'est au Centre des foires d'Exposité. Ça vous tente d'aller triper avec des fins connaisseurs, que ce soit pour vous acheter une nouvelle motoneige ou juste voir les nouveautés ou encore perfectionner la vôtre ou parler de sentier, parler d'équipement. Des fois, motoneige, tu l'as, mais un petit casque chauffant, des petites poignées chauffantes, un genre de siège qui t'associe avec ton enfant. Tout ça est au Salon de la motoneige. Puis c'est un de nos préférés, Marcel Bouchard, qu'on va recevoir dans les prochains jours en passant pour ce salon-là, qui est président d'eux.
J'adore Marcel Bouchard. La question du jour pour avoir accès à vos billets, c'est au 418-971-1021. Pascal, ouais, la question, ça va être ça. Je vais y aller. C'est moi qui vais la choisir. Ça va toujours être plus facile. C'est quoi la grosse nouvelle dans le secteur de Val-d'Or aujourd'hui?
Fallait être à l'écoute.
Expliquez-moi ça dans vos mots, là. 418-971-1021. Je veux la grosse nouvelle dans le secteur de Val-d'Or et ben, vous aurez des chances de gagner cette paire de billets. All right. Martin Bourget, notre chroniqueur chasse-pêche, est là. Salut, Martin.
Hey, salut, vous autres. Comment ça va?
Ça va bien. T'es revenu de la chasse à l'Orignal.
Oui, on était à l'Orignal la semaine passée. Ça s'est soldé en chasse à la poule, c'est-à-dire en chasse au petit gibier, parce qu'on était comme passé le rut un peu. Fait que les messieurs et les madames Orignaux étaient silencieux un peu dans le bois. Ils étaient tannés de faire des mamours, là. C'était l'après-match.
Ouais. Hey, Martin, dis-moi, Pascal nous a parlé d'un taureau qui était en liberté là, dans le secteur de Lévis, entre le chemin Craig puis route Lagueux, sur la piste cyclable. Bon, là, on va essayer de le retourner chez lui, ce beau taureau-là, là. Mais il y a de ça quelques années.
On va prendre le taureau par les cornes.
Il y a de ça quelques décennies. Il y avait un moustachu qui faisait rage sur les ondes de la Radio de Québec qui parlait d'une histoire qui s'était passée dans le secteur de Lévis où des policiers avaient tiré sur une vache et visiblement l'avaient raté alors qu'il était plusieurs à tirer dessus. La vache avait décidé de continuer son chemin et il n'avait pas réussi à la tuer. T'abords ça comment, un bovin de même?
Mais l'abats-tu à base, ben, tu l'endors-tu pour après
risque,
transférer?
Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, s'il risque d'aller sur l'autoroute, t'as pas vraiment le choix, là, mais t'essayes le moins possible de faire du mal, bien entendu.
Ben, c'est sûr, mais nos agents de protection de la faune, les agents de protection de la faune sont formés pour ça, sont équipés pour ça, puis c'est ceux qui doivent intervenir. Puis justement, là, dans la nouvelle, on parle des agents de protection de la faune qui sont appelés en renfort dans le dossier pour justement limiter les potentiel dégâts, tu sais, puis on regarde à ne pas blesser des citoyens, mais ne pas blesser la bête aussi, si c'est possible. Parce que là, on parle d'un taureau, probablement d'une ferme bovine avoisinante. Là, ça n'a pas l'air d'être un taureau de rodéo qui est agressif. Fait que c'est pas un taureau qui va courir après tout le monde. Fait qu'essentiellement, comme une vache, ce qu'on veut faire, c'est le localiser, le capturer, puis le ramener chez eux. C'est la base du projet, là, c'est ça. Maintenant, si on inclut les policiers là-dedans, puis les histoires dans le passé, il faut faire attention à une chose. Nos policiers sont des gens qui sont équipés comme ils sont équipés par leur service, leur corps policier. C'est pas, ils n'ont pas nécessairement les outils pour intervenir auprès de grands bovins comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement l'arme, le calibre, puis on ne leur fournit pas le temps de pratique non plus pour être excessivement précis. De toute façon, si on revient en arrière et on parle d'armes puis de calibre, on parle par exemple d'un policier qui va intervenir en milieu urbain comme ça. Bien, ils pourraient prendre une arme longue. Ils ont des armes longues de service, mais ils doivent tout le temps calculer qu'est-ce qui se passe l'autre bord, la portée de son tir puis le danger inhérent à tout ce qui est limitrophe comme habitation. Fait qu'il va généralement choisir de se servir de son 9 mm puisque la portée est moins longue au niveau danger. Mais son 9 mm n'est pas approprié pour abattre une bête de cette grosseur-là. Le pouvoir de pénétration de ce boulet-là, le choc hydrostatique qu'il va provoquer et la précision de ce type d'arme-là couplé au nombre d'heures de pratique que son service de police lui fournit, ça en fait un outil qui n'est pas Il n'est pas adéquat pour ça, pantoute. Puis ça revient souvent dans les nouvelles. Mais oui, mais pourquoi ils n'ont pas pris la carabine? Bien, parce qu'il y a un choix à faire comme policier, puis il y a des habitations tout le tour. Il ne fera pas ça. Les agents de protection de la faune vont utiliser des calculs pour avoir des doses pour endormir l'animal puis le déplacer sécuritairement. Puis c'est comme ça qu'on doit agir. Par contre, les policiers, s'ils voient que la population est en danger et qu'ils doivent faire feu sur l'animal, ils vont le faire parce que c'est dans leur mandat. Ils vont le faire, mais on ne doit pas s'attendre à avoir une mise à mort rapide de l'animal avec un 9 mm, avec la précision puis le potentiel de pénétration du boulet des 9 mm. Je vous dis, si ça se repasse, on va voir ça passer dans les nouvelles beaucoup. Ça va piocher beaucoup sur les policiers qui, malheureusement, eux autres, ne font que faire les bons choix sécuritaires pour l'environnement. À cette heure, ce taureau-là, là, de ce que je peux voir, le secteur où est-ce qu'il est, là, c'est vraiment carrément à côté de la piste cyclable. La crèmerie qui est sur le coin de l'autoroute 20, là, dans ce secteur-là, là, il est là, là. Il est dans le boisé, dans ce coin-là.
C'est celle où il y a une vache, justement, l'été, puis il l'enlève l'hiver, là. Peut-être qu'il la cherche.
Ça, il y a quatre, peut-être.
Mais c'est vrai! C'est vraiment celle-là, là.
La vache en plastique,
oui. Sur le terrain, la grosse, il cherche la femme.
Exactement. Si vous voyez Marteau dans une crèmerie dans ce coin-là, c'est la crèmerie de laquelle on parle. On le voit souvent là. C'est dans ce secteur-là qui est. Maintenant, les citoyens, la manière qu'il faut se comporter si vous voyez ce bovin-là, eh bien, c'est de contacter directement, taper là, SOS Braconnage, Urgence Faune Sauvage, appeler au numéro pour ou encore signaler au corps policier que vous avez vu. Là. C'est signalement obligatoire dans ces cas-là. Si vous le voyez, appelez pour le signaler qu'on puisse rapidement intervenir dans ce dossier-là.
OK, mais tu tires, mettons que les policiers, parce qu'ils vont essayer de le pogner au lasso, j'imagine.
Ça serait drôle, ça.
Mais ils peuvent le pogner comment, autrement?
Bien, idéalement, si c'est un bœuf qui est très, très calme, là, ils vont être capables de le faire grimper dans un trailer avec du foin carrément. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Si c'est un bovin comme une vache de pâturage, puis on fait comme on fait quand on veut les faire revenir à l'étable ou on fait comme on fait quand on veut les converger vers un autre champ, on va le pousser tranquillement vers un trailer. Puis même en poussant avec nos mains sur les fesses, une vache va se déplacer s'il n'est pas trop affolé. Si moindrement l'animal est anxieux, dès que l'animal rentre en anxiété, il y a un danger. Généralement, on va opter tout de suite pour des fameuses petites fléchettes qu'on va tirer avec une petite carabine qui vont apaiser l'animal. Puis là, on va faire l'enlèvement de l'animal puis on va aller le reporter dans sa ferme d'où il vient.
OK, tout simplement.
Oui, oui, c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Puis quand on a affaire à des animaux bovins de même, tant que ça perd pas le nord, là, tant que ça pogne pas les quatelles puis ça tombe pas en grosse anxiété, là, c'est pas un danger pour la population, là, à moins que le dit taureau ait le scrotum qui chatouille en temps de reproduction puis qu'il y ait un petit peu les hormones dans le tapis puis qu'il court partout, là, ça, c'est un autre paire de manches.
Ouais. Mais à moins d'être une vache, il n'y a rien à craindre dans le secteur de Lévis.
Ah, puis même si c'est une vache, est-ce que c'est vraiment une crainte que tu as à avoir? Je veux dire, c'est le temps des mamours, c'est le temps des mamours. Là.
C'est le temps des mamours. Puis parlant des mamours.
Il y en a qui sont pas consentantes, là.
Non, c'est ça.
C'est scrotum typique.
Ça dépend de l'identification, de l'orientation de la vache aussi. Ouais. Mais ça, c'est un autre dossier.
Parlant de la saison des mamours, les chevreuils qui sont là-dedans, il faut se méfier un peu sur la route, là.
Oui, bien évidemment, présentement, vous les voyez beaucoup plus en milieu périurbain, en abord des routes, parce qu'ils vont se déplacer énormément. On a beaucoup de photos et de vidéos de chasseurs ces temps-ci, des petits mâles chevreuils et des grands mâles chevreuils qui sont déjà sur ce qu'on appelle la chase, nous autres. Ils sont déjà en train de parcourir les sentiers où est-ce que les autres animaux passent. Ils vont faire au sol des grattages dans lesquels ils vont uriner et ils vont frotter le coin de leurs yeux sur les branches juste au-dessus de ces grattages-là. Il y a une glande dans le coin de l'œil qui est la glande préorbitale qui leur permet de laisser leur identité sur place. C'est un peu comme les boîtes courriel dans le bois, sur le parcours. Ils vont s'identifier comme ça, littéralement. Fait que là, ils se promènent pour essayer vraiment de faire, entre parenthèses, l'inventaire des autres chevreuils qu'il y a dans le coin, parce qu'ils vont rentrer vraiment en accouplement. Donc, le pré-rute, comme on l'appelle, a cours présentement. C'est pour ça que les chasseurs, présentement, ont commencé à utiliser les glandes préorbitales, synthétiques, les faux grattages, des petites quantités d'urine pour essayer de stimuler ces gros bocs-là à venir sur leur territoire de chasse. Mais évidemment, vous allez les voir beaucoup plus sur le bord des routes. Où est-ce qu'il en reste? Où est-ce qu'on a laissé des terrains pour ça? Parce qu'ils cherchent présentement à se reproduire.
J'ai tellement pensé à toi en voyage, Martin, là, parce que j'avais jamais vu un endroit, un pays, OK, où il y avait autant de cerfs. En Slovénie, là, sur le bord des petites routes, là, très étroites et tout, il était pas rare qu'à un moment donné, je me retournais, surtout le soir. Je sais pas pourquoi il était plus là le soir, peut-être parce qu'il y avait moins de voitures, je sais pas quoi. Mais 30 à 60,
oui.
Sur le... J'ai jamais vu ça, là. Ah, jamais vu ça.
Et tu sais, il y a certains cerfs, comme le cerf Sika, par exemple, dans certains pays, qu'on va voir qui ont un comportement beaucoup plus grégaire, comme celui que tu décris là. Ils vont se tenir plus en gang que nous autres. Nous autres, ils vont se tenir en gang, surtout quand ils ravagent l'hiver. Le reste du temps, ils vont se tenir en petite famille avec les veaux, avec les autres femelles. Il va y avoir des petites hardes. Mais effectivement, ailleurs, on voit des gros comportements de même. La nuit, souvent, quand la lune est claire, ça leur permet, parce qu'ils ont des bons bâtonnets lumineux dans les yeux, ils voient très clair avec une moindre lune, puis ils vont se déplacer souvent plus la nuit pour justement essayer d'être moins visibles puis moins entendus par les prédateurs. Ils vont avoir leur run de nuit, puis ils vont préférer voyager de nuit, puis ils vont rentrer dans le bois sale de jour pour se reposer.
OK. Puis c'est la gestation chez les chevreuils, c'est combien de mois à peu près?
Ben, écoute, je voudrais que je check exactement combien de mois, mais ils vont mettre bas là, au printemps. Donc, ils passent tout leur hiver en gestation pendant qu'ils sont en ravage. Ils vont tenter d'aller chercher un maximum de nourriture avant de rentrer en ravage, évidemment, pour la gestation. Puis après la saison hivernale, là, les mises bas vont commencer.
Oui, puis là, tu me parles des ravages. Il va falloir encore répéter dans quelques semaines de dire aux gens, si vous êtes en motoneige, c'est le fun, vous pouvez les observer de loin, mais n'allez pas les nourrir, vous faites des traces pour les loups.
Bien, première des choses. Deuxième des choses, vous les perturbez. Le cerf de Virginie, là, tu vois, je viens de le taper, là, c'est fin mai, même début, aller jusqu'à même début là, juillet, fin juin, début juillet, là, les mises bas. C'est vraiment après la saison printanière, là, exactement. La perturbation des milieux de ravage, c'est un point qui est excessivement important à parler, puisque quand le cerf de Virginie ou encore l'orignal rentre en ravage, il s'est gavé le plus possible pour avoir une réserve d'énergie la plus élevée possible. Et quand il est dans son ravage, il va d'abord établir son ravage en abord d'air de nourriture où est-ce qu'il va calculer combien d'énergie il va dépenser pour aller chercher la nourriture versus qu'est-ce que lui rapporte la nourriture. Et c'est un calcul qui est vital. Donc, quand on va perturber un ravage et on oblige les bêtes à sortir de là, on leur fait dépenser une énergie qu'elles n'ont pas. Et quand on va les nourrir dans le ravage avec des aliments qui sont non indiqués, mais par exemple du pain blanc puis des trucs comme ça, ils vont tellement dépenser d'énergie à digérer ce pain-là, puis après ça, à péter ce pain-là, parce qu'ils vont ballonner énormément, qu'on cause énormément de dommages, puis on vient peut-être de tuer des chevreuils en faisant ça.
Vous pensez les... Mais je veux pas rire, c'est juste que ça veut... les images d'une coupe de chevreuils qui arrête plus de péter dans le bois, je suis comme, voyons, parce que tu leur as donné du pain.
T'sais. C'est un réchauffement climatique vient de là, tu le savais.
Ça, puis... Arrête.
À chaque année, il y a des gens qui font ça, Pascal. C'est extrêmement dommageable pour le cheptel de chevreuils. Il faut le répéter constamment. Tu sais, ça doit être le fun, pareil, de nourrir les chevreuils à la main, là. Mais quand tu jases avec des spécialistes comme Martin, ben, ils t'expliquent les dommages que tu peux créer en ayant cette petite activité de le fun-là avec les enfants.
Bien, ne serait-ce que de ne pas choisir la bonne nourriture, tu peux venir de tuer un chevreuil. Tu peux venir de créer une impaction intestinale. Tu peux venir de créer une dépense d'énergie inutile en plein hiver. Puis, pas pour rien qu'on retrouve des veaux orignaux et des veaux chevreuils dans un chemin forestier qui meurent d'essoufflement à essayer de remonter l'espèce de petit talus sur le côté pour retourner dans le bois. Ils ont trop dépensé d'énergie parce qu'on les a perturbés. On est allé faire de la motoneige un ravage. On est allé pour prendre la photo, pour les nourrir, pour, dans notre tête, les soigner. C'est pas la bonne chose à faire. Ils ont choisi une aire de ravage en vertu de ce qu'il y a de disponible comme brindilles à manger à proximité qui leur demandera pas trop d'énergie pour aller chercher une source d'énergie fiable. Si vous venez mettre votre grain de sel là-dedans, vous pouvez causer de gros dommages. Une autre raison pour laquelle on a interdit le nourrissage du cerf de Virginie en dehors des périodes de chasse, il y a des routes, il y a des autoroutes. On le voyait entre autres dans le coin du Mont-Saint-Anne. Là. Les gens nourrissaient l'autre bord de la route. Ils se faisaient fesser des chevreuils en pleine face du Mont-Saint-Anne à tour de bras pendant l'hiver parce que les chevreuils, devant une source de nourriture facile de l'autre bord de la rue, ben, ils traversaient manger, mais si tu peux. Ça impacte un cheptel de manière majeure d'essayer de mettre la main de l'homme là-dedans. Et puis, c'est pas pour rien qu'on a des plans de gestion où est-ce qu'on interdit le nourrissage. Ça peut être très dommageable.
Mais les gens veulent pas mal faire. Mais chaque année, il faut en parler. T'sais, les propriétaires de quad sont bien informés, mais il y en a tout le temps un à chaque année qui se filme en train de poursuivre un orignal en plein hiver. Oui. Même affaire pour ce qui est de la motoneige, parce que vous allez les tuer, ces bêtes-là. Là. En faisant ça, là, c'est pour vous, c'est bien impressionnant parce qu'ils courent devant vous, mais vous allez les tuer. Là.
Bien, littéralement. Bon, on le voit tous les hivers. Puis nous autres, on le voit parce qu'on reçoit les nouvelles de la grande faune à l'interne. Puis combien de cerfs de Virginie puis de chevreuils, comme je disais tantôt, qui sont retrouvés morts, essoufflés, sur place. Puis là, ils sont vidés par les loups ou encore les coyotes. Puis, je veux dire, bravo, tu viens de tuer un chevreuil.
Mais tu as une super de belle vidéo que tu as pu mettre sur tes réseaux sociaux, par exemple.
Oui, bien, c'est ça. J'allais dire, bravo, tu as un beau souvenir. Tu es un meurtrier. Ça.
Exact.
Ça, c'est un meurtre. Ça, ouais. C'est un meurtre. Ouais. C'est un meurtre, puis il faut savoir que c'est du braconnage. c'est le braconnage et c'est passible de très grosses amendes, voire s'il y a de la récidive d'emprisonnement. Littéralement. Là.
Ouais.
Littéralement, c'est de la maltraitance animale en plus.
On parle de chevreuils. En terminant, Martin, il reste à peu près une minute. Là. Les chevreuils de Longueuil, on en est rendu où dans ces étapes-là? La dernière fois que j'ai parlé avec toi, on parlait d'armes à air.
Oui, d'armes à air comprimées. Puis c'est juste pour faire la parenthèse rapide, là, ce ne sont pas les carabines Daisy, les carabines à plomb avec lesquelles vous tirez dans des cibles. Là. C'est des carabines à air comprimées à 250-300 livres de pression qui tirent entre 750 et 1250 pieds seconde. C'est très... Dans les autres pays, là, c'est fortement documenté, là, la chasse au grand gibier, aux fusils de type PCP, là, les fusils à air comprimé, est légale. Là. Nos voisins du Sud font ça. Là. Le US Wildlife Institute a surdocumenté la question. Ils ont fait un premier abattage. Il y a eu une marche au flambeau par la suite. Je ne sais pas encore combien ils en ont abattu la première fois, mais c'est l'option qui a été retenue pour amoindrir le danger, parce qu'un petit peu comme le 9 mm qu'on parlait tantôt, bien, la portée dangereuse est beaucoup moins grande. Le son n'est pas présent. Il n'y a pas de poudre à canon, entre parenthèses, qui est brûlée. Et la première option qui était l'arbalète, bien, un animal meurt par hémorragie quand tu tires une flèche dedans, aurait peut-être trop risqué que les chevreuils aillent finir leur course dans le cours de la garderie à côté. Donc, en mon sens, c'est un choix qui était éclairé avec des tireurs professionnels qui vont tirer au niveau cervical, donc qui vont terminer la vie de l'animal sur place. C'est comme une switch à off immédiate. C'est la façon, là, puis c'est rendu dur à dire comme ça, mais c'est la façon la plus humaine de le faire, tant qu'à moi.
Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse-Pêche, on peut vous voir où, vous entendre où, communiquer avec vous, de quelle façon?
Notre site internet, acpnation.com, c'est la source première. Communiquez avec nous au travers de Facebook. On vous répond très rapidement, sinon tous les jeudis soirs, 21h, sur les ondes de Télémag et en direct en même temps sur les Facebook, YouTube, etc. de ce monde.
C'est toujours un plaisir, cher ami.
Exactement, même chose, c'est réciproque, gang. On s'en reparle la semaine prochaine.
Bye bye.
On parle à Martin toutes les semaines, à chaque jeudi. On a toujours le plaisir de lui jaser. Quelle belle entreprise que Martin a avec sa conjointe. Je ne sais pas si vous les suivez sur les réseaux sociaux, mais si ce n'est pas le cas, faites-le de belles images que vous avez accès. Des fois, c'est des endroits où, tu sais, toi et moi, on ne peut pas aller nécessairement. Là.
Mais moi, c'est une chronique auquel je doutais là, que ça allait être personnel.
C'est
une de mes préférées.
C'est une de tes préférées maintenant. Mm. Ouais, ça arrive souvent, ça. C'est du bon monde.
C'est du... Ben écoute, il rend tout intéressant, Martin.
Exact.
Il rend tout intéressant. C'est alternance... un passionné.
Ouais. Alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui. 30% de probabilité d'averse. Je pense que ça s'est estompé. S'il pleut dans votre secteur, 418-971-1021, dites-moi ça. Actuellement, c'est 20. C'est très confortable. Les gars ont sorti le moto.
Il y a du monde en manche courte aussi qui travaille dehors.
Ah ouais?
Selon des auditeurs, on nous le signale.
Ben c'est sûr. Tu travailles à la construction à 20, là, tu veux rester en manche courte, bien entendu. Ce soir, c'est des nuages, peut-être des averses aussi, avec un minimum de 12 pour ce qui est de demain, vendredi 1er novembre. C'est des averses qui devraient cesser en après-midi, avec une alternance de soleil et de nuages par la suite. Un maximum de quoi? De 12 degrés pour ce qui est de demain. Donc ça va être très confortable. Metallica! See you,